On en parle. Mathieu Truffert.
Derrière l'amour du mouvement peut se cacher. Une dépendance à l'exercice physique. Et c'est le sujet de notre guichet ce matin, Johanna Comanche.
Oui, on va parler bigorexie, une addiction comportementale caractérisée par un besoin incontrôlable de pratiquer une activité sportive, alors de bouger de manière excessive au détriment de sa santé, de sa vie sociale et de son bien-être psychologique. La bigorexie, la dépendance au sport, est reconnue comme maladie par l'OMS depuis 2011.
Et pour répondre à toutes vos interrogations, écoutez vos témoignages. Deux spécialistes sont avec nous ce matin. Mathieu Sobat, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. On rappelle que vous êtes médecin du sport au CHUV et Romain Ducret. Bonjour à vous aussi, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes préparateur mental et vous êtes membre de la SASP, c'est donc l'Association Suisse de Psychologie du Sport et de Préparation Mentale. Peut-être, Mathieu Sobat, c'est quoi les symptômes physiques caractéristiques de ce qu'on vient de définir comme la bigorexie ?
Alors, c'est vrai que la définition a déjà été donnée. Après, il y a différents symptômes, effectivement, à la fois de ne pas réussir à s'arrêter, d'être toujours être dans son entraînement, et surtout de culpabiliser, d'avoir des symptômes physiques ou psychologiques, d'angoisse, d'anxiété, de culpabilisation, si on n'arrive pas à faire ces entraînements réguliers. Et c'est à partir de là où on peut voir des choses qui sont inhabituelles chez des personnes qui ressentent des malaises avec différents types de symptômes au niveau physique. Ça peut être aussi des fois des transpirations, des palpitations, des maux de ventre, des troubles du sommeil. On peut trouver plein de symptômes qui sont associés à ça. Et donc c'est vrai que il y a pas un signe caractéristique, mais je dirais que le signe général, c'est on n'arrive pas à bien s'adapter à si on a un manque de un changement dans son régime d'entraînement. Et typiquement, moi je le vois dans les blessures. En fait, si on est blessé, on n'arrive pas on n'est pas bien si on n'arrive pas à pas performer comme on veut. Ben là, on se sent pas bien.
Mathieu Sobat, vous parlez de blessures justement dans le cadre de la bigorexie. Finalement, on refuse la phase un petit peu de récupération qui devrait faire partie de l'entraînement. Et puis on va au-delà tout le temps de la douleur. Et puis même si on est blessé, on y va, on continue quoi.
C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on continue malgré le fait que naturellement, on se dit si on a une blessure, si on a une douleur, si on ne se sent pas bien, normalement, on doit déjà consulter un médecin ou un thérapeute et adapter en fonction de la blessure. Et si, dans le cas contraire, on continue, parce que justement, le corps ou sa tête nous dit « je dois continuer, c'est indispensable pour moi, j'en ai besoin », il y a toute cette notion vraiment de pas pouvoir s'arrêter, de pas pouvoir avoir le contrôle sur son entraînement, sur sa pratique, même au sens large, sur son mode de vie, parce qu'après, c'est tout un panel en lien avec le manque de phase de récupération, des fois des troubles du comportement alimentaire, altération du sommeil. Donc c'est tout un panel assez large.
La bigorexie, finalement, au niveau physique, c'est quand ça prend toute la place, au détriment de tout le reste. Là, c'est quand vraiment on est dans
la phase...
Ouais,
honnêtement, je sais pas si c'est vraiment toute la place, mais en tout cas, une place importante. C'est clair, c'est souvent au centre, en tout cas, une grande priorité. Et on fait tous, de plus en plus, s'axe autour de cette priorité-là. Dans ce cas-là, on parle du côté sportif, soit un sport d'endurance ou un sport plutôt de renforcement musculaire.
Romain Ducret, vous êtes plutôt là pour parler des questions mentales et psychologiques autour de l'excès du sport. On a quasiment touché un mot déjà ici avec Mathieu Sobat. Quels sont peut-être sur le plan mental les signes avant-coureurs d'une addiction au sport ?
Bon, déjà, je fais la grande différence entre la dépendance et l'addiction. Mmh. C'est que la dépendance et l'addiction sont connectées.
Mmh. Expliquez-nous quand même la différence.
La différence est essentielle, c'est comme l'a dit M. Sobad, c'est que lorsqu'on constate des conséquences négatives, on est enfermé dans ce besoin irrépressible et ce n'est pas la volonté, on continue. Ça peut être les blessures, ça peut être un déséquilibre de la vie en général. Hein, parce que quand on est en bigorexie, en fait, on néglige peut-être sa vie familiale, sa vie sociale, sa vie professionnelle. Donc, lorsqu'on est vraiment enfermé, on est vraiment dans la bigorexie, quoi.
Les symptômes, alors justement, avant-coureurs, parce que là, on parle de bigorexie, donc là, c'est vraiment l'état dont, quand on est dans la maladie. Avant de tomber dans la maladie, il y a tout un chemin. Donc, les premiers symptômes où on pourrait se dire, oulala, attention. Au niveau psychologique, ça serait quoi?
Ben déjà, quand une sportive ou un sportif n'arrive pas à prendre un jour de repos, ça, c'est déjà très, très, très inquiétant. Et après, c'est aussi lorsque la personne, par exemple, si elle ne peut pas faire un entraînement, si elle ressent une grosse frustration et ou de l'anxiété et ou des émotions négatives, là, c'est vraiment des signes qu'il faudrait vraiment prendre en considération.
Je me demandais, est-ce que finalement, Mathieu Sobad, vous avez remarqué qu'il y a un profil type de sportif qui pourrait être plus sujet à plonger dans la bigorexie? Est-ce que ce sont plus des femmes, plus des hommes? Et est-ce que peut-être il y a des sports dans lesquels on peut être plus vite amené à tomber dans ce type d'excès?
Alors c'est vrai qu'on peut dégager certaines tendances, là je ne serais pas du tout exhaustif, mais... Il y aurait quelques pistes. Selon certains sports, c'est vrai que des sports d'endurance avec beaucoup d'heures d'entraînement pour y arriver, type des triathlons, des trails, du cyclisme, peuvent être un facteur de risque. Après, certains sports aussi d'image, que ce soit patinage artistique, avec des performances à la fois athlétiques et artistiques, peuvent toucher. Donc, et là, le côté genré va être aussi selon les sports, mais tous les sports peuvent être pratiqués par des femmes ou des hommes, et tout le monde peut être touché, homme comme femme. Et après, c'est vrai aussi des activités sportives type le fitness, même crossfit ou autre, où là, ça va être plutôt l'image corporelle qui va dégager et qui va être justement emprisonnante dans la performance. Donc ça, c'est un peu des choses que l'on voit. Et après, par rapport à la personnalité, on voit souvent des personnalités qui sont perfectionnistes, qui veulent toujours aller chercher... la performance au-delà même de leurs limites, qui s'arrêtent pas et qui des fois n'écoutent pas leur corps, qui n'arrivent pas vraiment à mettre des plages de récupération, des personnalisés aussi angoissés, aussi qui ont déjà eu des fois des traumatismes, que ce soit sur les images corporelles qui ont été qui ont eu des remarques par exemple, où ça peut déclencher certains retours par rapport à cette bigorexie. Donc voilà, mais après ça peut être très large aussi. À ma connaissance, il n'y a pas un point vraiment caractéristique. C'est ce qu'on a dit. À partir du moment où on angoisse, on n'est pas bien, dès qu'on arrête le sport, c'est là où commence la bigorexie.
Je retiens. Et ouais. On culpabilise.
Il y a une sorte de culpabilisation, oui, souvent.
Est-ce que la bigorexie, c'est une maladie typique de 2026? Est-ce qu'on est vraiment dedans, particulièrement aujourd'hui, Romain Ducret?
Ben, je pense que ça a augmenté par des sources socio-culturelles, par exemple les réseaux sociaux, où beaucoup de personnes peuvent tomber dans la dysmorphie musculaire.
Mmh. Rappelez-nous ce que c'est.
C'est ce qu'on appelle aussi le complexe d'Adonis. Mmh. Ça veut dire cette perception toujours pas suffisante de notre apparence physique. Ouais. Et là, on peut quand même faire un peu une différence. On n'a pas d'études vraiment très sérieuses, mais on voit que, par exemple... Les messieurs sont un peu plus touchés par l'aspect musculaire, tandis que les dames sont un peu plus touchées par l'aspect minceur. Mmh. Mais c'est des généralités.
Ouais. Cette émission est aussi la vôtre. On attend toutes vos questions sur l'excès de sport, quand le sport qui rime avec santé devient une maladie. On parle de bigorexie. On accueille toutes vos questions au 0800 108 208, 0800 108 208. Vos questions, vos remarques, vos expériences, peut-être aussi volontiers. Vous pouvez nous laisser un message vocal au 076 206 12 12. On les accueille aussi très volontiers. Et puis les mails. D'ailleurs, on en a reçu un, Johanna Comanche.
Oui, alors je suis un peu loin de mon ordinateur et du micro, je me suis très mal organisée, je vais faire un peu de sport là.
On va commencer par cette question, puis alors, après on écoutera un peu de musique.
Voilà, alors, bigorexie, le suis-je ? Une à deux fois par jour, 3 heures de natation et aquagym, plus randonnée à pied ou à vélo et danser avec 3 points d'exclamation. Sinon, j'ai l'impression d'aller moins bien et ça fait tellement de bien au corps et à l'esprit. Par contre, je me sens parfaitement bien, sans aucun effet négatif. Est-ce que c'est grave, docteur ?
Alors souvent, souvent on a tendance à dire que c'est pas tant le nombre d'heures sportives qui en compte en fait. C'est-à-dire ça c'est vraiment en lien avec la personne, avec tout son entraînement, le type de sport, etc. Par contre, c'est la façon dont elle gère quand elle en fait pas, et aussi est-ce qu'elle a des plages de pause de récupération, parce que il y a le corps. Il faut savoir que le sport, c'est très bien et on peut aller vers 2 heures de sport, 3 heures de sport par jour en étant en bonne santé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, c'est important aussi de mettre des plages de récupération. Nous, on dit chez nos sportifs d'au moins minimum un jour où on fait rien, en tout cas sur le plan endurance ou musculaire, donc des plages de récupération. Et après, moi, chez elle, elle dit quand même, elle signale, sinon j'ai l'impression d'aller mal. Donc, c'est à partir de là où, justement, à quel point elle est mal quand elle ne fait pas tout son rythme d'entraînement. Et quel type de mal elle a en fait ? Est-ce que c'est justement des crises d'angoisse ou son corps, est-ce qu'il y a des douleurs ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas bien ? Si c'est juste une tolérance acceptable, pour moi ça va. Si ça l'est pas, ben là il faut consulter, il faut en discuter.
Romain Ducré, est-ce qu'on peut facilement être dans le déni ? Est-ce qu'on peut être dans la bigorexie sans s'en rendre compte ?
Ah mais ça arrive très 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 souvent et ça reste quelquefois un sujet tabou. Et je dirais que toute sportive ou sportif déjà devrait être consciente de ses émotions, c'est-à-dire s'analyser. Et moi, je vois bien quand je prépare des athlètes, quelquefois, je les fais réfléchir parce que j'ai des signes qu'ils sont peut-être bigorexés.
Joli, vous dites, vous les faites réfléchir. Ouais. C'est eux qui doivent trouver la propre réponse. C'est pas vous qui l'amenez.
Ah, c'est beaucoup mieux. La prise de conscience est plus profonde. Et c'est difficile d'améliorer la situation si la personne ne se reconnaît pas elle-même dans cette situation-là.
9h18 sur RTS Première, on se retrouve dans 3 minutes. 0800 108 208 pour toutes vos questions en direct.
Rappelle-toi, nous étions en...
Rappelle-toi, c'était François and the Atlas Mountains, avec aussi la voix de Clara Luciani.
Le guichet dont on en parle, 0800 108 208.
C'est le numéro gratuit de l'émission. C'est aussi le numéro que vous venez de composer, Jean-Marie, à Genève. Bonjour et bienvenue dans l'émission.
Bonjour, merci pour votre émission. J'avais effectivement une question par rapport à un complément d'une précédente question sur le genre. Parce qu'en fait, pour moi, elle n'a pas été répondue suffisamment clairement. On entend souvent, il y a aussi des, bien sûr qu'on ne peut pas justifier un genre par il y a des. C'est ce qui me contrarie aussi souvent dans les explications sur un thème d'actualité, sur les abus sexuels. Oui, bien sûr, il y a aussi des femmes qui abusent, mais c'est, la proportion est tellement indécente que voilà, je suis un peu contrarié par... Et puis comme la question avant, est-ce qu'il y avait un genre par rapport à la bigorexie, ça a pas, c'était répondu en disant il y a aussi, ça touche tous les genres. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'a pas été réellement concrètement répondu, c'est quelle est la proportion, parce qu'intuitivement j'ai tendance à penser que la bigorexie est plus masculine, et puis j'aimerais bien avoir plutôt un chiffre sur... intuitivement j'aurais tendance à penser que ça touche 80% des hommes et 20% des femmes, mais j'aimerais bien avoir cette notion.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marie. Vos intuitions sont-elles justes? Romain Ducret, dont je rappelle qu'il est préparateur mental professionnel et membre de l'Association suisse de psychologie du sport et de préparation mentale. Romain Ducret, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, Jean-Marie, merci beaucoup pour votre question. On n'a pas, malheureusement, ces dernières années, on n'a pas des études très précises à ce sujet-là, mais les dernières études au niveau européen montrait quand même une proportion à peu près de 62% pour les messieurs, 38% pour les dames. Je pense que maintenant, c'est vraiment en train de diminuer parce qu'on voit de plus en plus, et c'est plutôt une bonne chose, des dames qui font beaucoup de sport d'endurance. Mais voilà le chiffre qu'on peut retenir, mais c'est un chiffre qui est, à mon avis, pas précis, 62-38% au niveau européen. Et comme je dis, cette tendance va s'amenuiser au fil des années.
Au-delà des chiffres, les leviers peut-être qui amènent à la bigorexie sont peut-être différents suivant le genre, hein.
Moi, je pense que la plus grande différence, c'est pas forcément au niveau des gens, c'est plutôt au niveau de la personnalité. Comme l'a dit M. Sobad, il y a des prédispositions. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont tomber dans la bigorexie, mais ça touche quand même un peu plus les personnes qui ont un peu un manque d'estime, un manque de confiance en eux-mêmes, les gens, comme ça a été dit, perfectionnistes, les gens qui ont un grand besoin de contrôle. Hein, le sport permet de gérer l'incertitude chez ces gens-là. Ça concerne aussi plus les personnes qui ont un peu plus de peine à se remettre en question, à prendre du recul sur les événements. Et bien sûr, ça peut toucher un peu plus les gens qui ont des prédispositions aux addictions et ou aux troubles anxiogènes.
Mon enfant donne... Je pense que beaucoup d'ados font beaucoup de musculation, font beaucoup de sport. On voit des corps qui changent. Si je vis ça à la maison, qu'est-ce que je dis à mon enfant, à mon ado? Peut-être Romain Ducret encore.
Et comme vous l'avez dit, on sait que ça touche un peu plus les adolescents et les jeunes adultes. Et là, en tant que parent, il faut vraiment observer les signes précurseurs. Et si, au moindre signe, vraiment faire réfléchir la personne.
Mathieu Sobad, des jeunes qui font beaucoup de sport, qui sont peut-être un petit peu en passe de devenir bigorexiques. Vous en connaissez beaucoup?
Alors, j'en connais en tout cas, et c'est vrai que c'est une période clé, tout simplement dans le développement pour sa vie adulte, mais justement, c'est une période de fragilité aussi, justement, dans cette pratique sportive, et c'est vrai que là, l'encadrement est super important au niveau du coach, au niveau des médecins, mais aussi de tout ce qui peut tourner autour, évidemment, les parents. Ça peut être perturbant. Moi, j'ai beaucoup de parents qui demandent, mais voilà, mon enfant fait 12 heures, 15 heures de natation ou de gymnastique. Est-ce que c'est pas trop? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tant le nombre de d'heures, c'est aussi comment il gère, tout autour de ça, il arrive à faire. Est-ce que ça se passe bien à l'école? Est-ce qu'il arrive à bien manger? Est-ce qu'il arrive à bien dormir? Est-ce qu'il a des copains? Est-ce que il a pas d'angoisse? Il a pas de troubles? Donc tout ça, en fait, on fait un point. Il y a pas une réponse toute faite. C'est-à-dire que quand il y a un questionnement, ça vaut le coup d'en parler. C'est un peu un message aussi de pas hésiter. Nous, les médecins du sport, on est formés. Les préparateurs mentaux et les psychologues du sport sont formés aussi pour identifier ça, pour discuter. Et des fois, on peut vite, entre guillemets, rassurer et casser en disant non, mais vous inquiétez pas. Après cela, cet ado est bien. On a identifié des choses, éventuellement, voir les limites à ne pas dépasser. Est-ce qu'il fait quand même, il garde ses plages de repos, sa journée de repos, etc. Tout ça, il y a des sortes de petits garde-fous. Est-ce qu'il n'y a pas de problème, où il a trop d'angoisse, etc., qui en parle. L'important, c'est en parler, comme on disait, il faut exprimer. Donc, il faut d'abord que l'ado en parle à ses parents, puis éventuellement en parle avec des professionnels autour, avec son coach, et trouver vraiment, après, tout simplement des réponses à des questionnements.
Romain Ducré.
Je pense que quand on a aussi un signe qui nous inquiète un peu, c'est vraiment essayer de faire un bilan médical et psychologique, les deux à la fois. Et je pense aussi que si on parle des personnalités, plus une sportive et un sportif fait son activité par motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment en faisant l'activité, j'éprouve un énorme plaisir, donc une émotion vraiment bénéfique à l'intérieur de moi-même, en fait, la personne va recevoir beaucoup d'énergie, donc elle va beaucoup se préserver par rapport à la bigorexie. Par contre, les athlètes qui font plus par motivation extrinsèque, par exemple, pour soigner leur image corporelle, mais ils le font que pour l'image, donc obtenir quelque chose à l'extérieur d'eux-mêmes, ça, ils vont pas se rendre compte, mais ils vont dépenser énormément d'énergie sans s'en rendre compte.
Johanna, on a reçu un message mail.
Oui, alors un vigneron, ça c'est intéressant parce qu'il fait le parallèle entre le métier et le sport. Donc cet auditeur est vigneron. Est-ce que vous expliquez, ce que vous expliquez au niveau du sport peut s'appliquer au travail? Hier, j'ai travaillé de 5h30 du matin jusqu'à 18h en m'hydratant mais sans manger. Je n'arrivais pas à m'arrêter et le soir, je me sentais bien. J'étais content d'avoir accompli mon travail. Mathieu Sobad,
excuse-moi.
Le médecin, peut-être.
Encore une fois, c'est comment il gère la charge de travail ou comment une charge d'entraînement, en fait. Si au final, il se sent épanoui à la fin et que cette charge, si possible, n'est pas tous les jours et qu'il y a des plages justement d'adaptation, encore une fois, c'est pas forcément mauvais. Déjà, se poser la question, c'est assez sain, je trouve, déjà, de se dire est-ce que c'est pas trop et comment je me sens par rapport à ça. Si la réponse est plutôt positive, je dirais, en tout cas à ce stade-là, avec juste ces informations-là, pourquoi pas.
On va parler de deux hormones qui sont présentes justement lorsqu'on est dans l'activité sportive, les fameuses dopamine et endorphine. Finalement, plus on fait du sport ou plus on bouge, comme témoignait ce vigneron. C'est une sorte de cercle vertueux qui peut cesser d'être vertueux.
Alors oui, c'est sûr que les hormones et tout notre fonctionnement du corps humain entre en ligne de compte. Moi, je trouvais intéressant la notion aussi que Romain Ducré a dit, c'est le plaisir aussi. Dès qu'il y a un athlète ou quelqu'un qui n'a plus de plaisir et qui fait justement ça de manière automatique, là, il y a des signes qui jouent. Et notamment, après, on touche d'autres pathologies, nous, qui sont très, très, très importantes à identifier. C'est un, le côté surentraînement. Est-ce qu'il y a justement une perte de performance, une perte de plaisir associée à potentiellement une addiction au sport ou autre? Et l'autre, c'est ce qu'on appelle la déficience énergétique relative dans le sport, donc ça s'appelle le REDS en anglais, REDS, où là c'est vraiment, on va avoir des troubles généraux au niveau du corps qui vont se perturber au niveau hormonal, au niveau osseux, au niveau neurologique, au niveau psychologique, et ça peut entraîner vraiment des problèmes. C'est un problème de balance entre les apports alimentaires et la surcharge d'entraînement, d'effort. Donc tout ça, c'est important à identifier.
Messieurs, vous êtes deux spécialistes. Si notre ado a un problème, est-ce qu'il peut finalement en parler à son pédiatre? Et en tant qu'adulte, finalement, le premier médecin qu'on voit, c'est son médecin généraliste, le médecin de famille. Est-ce que ces médecins-là sont aussi formés ou aptes à détecter ce type de problématique?
Romain Ducré.
Personnellement, je vois beaucoup de médecins généralistes qui nous téléphonent. En disant, voilà, j'ai une consultation, je maîtrise pas tellement le sujet, mais j'ai repéré telle et telle chose, est-ce qu'on peut en parler? Et ça, c'est plutôt une chose qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Pour revenir sur le vigneron, là, je parlerai pas forcément de bigorexie, je parlerai plutôt de de burn-out, hein, ce qui avait été mis en évidence par le docteur Friedenberg, cette notion de burn-out. Mais encore une fois, il y a une confusion. Après une journée de travail, c'est tout à fait logique d'être fatigué, enfin j'espère du moins. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que la fatigue n'atteigne pas l'épuisement. Parce que le burn-out, c'est vraiment ce qu'on appelle l'étape 4 du processus de burn-out qui arrive à la crise. Et là, on revient, hein, c'est ce qu'a dit aussi le docteur Sobad, c'est que plus on exerce un métier avec motivation intrinsèque, plus on se préserve. Regardez les gens qui exercent des métiers passion. Ça peut être tous les métiers. Ils peuvent travailler 80 heures par semaine, ils ne prennent pas de vacances, ils ont 80 ans, ils sont en pleine forme. Pourquoi ? Parce que, souvent, hein, généralise un peu, parce qu'ils reçoivent de l'énergie en travaillant. Et les gens qui vont travailler beaucoup par motivation extrinsèque, il y a toujours aussi une motivation extrinsèque, mais les gens qui travaillent vraiment beaucoup plus pour leur salaire, ils vont dépenser 3 fois, 4 fois, 10 fois plus d'énergie que les gens qui exercent leur métier. Du reste, Confucius disait déjà à l'époque, choisis un métier que tu aimes bien, comme ça tu n'auras jamais à travailler toute ta vie.
Eh bien, c'est joli. Bigorexie, quand le sport devient une addiction. On répond à toutes vos questions jusqu'à 10h avec Romain Ducret, préparateur mental professionnel, et avec Mathieu Sobad, médecin du sport au CHUV. Je vous rappelle le numéro de l'émission, 0800 108 208, 0800 108 208. Les Australiens de Tame Impala avec ce titre Dracula sorti en 2025. Dracula était-il bigorexique? On ne le saura pas. Mais peut-être que vous, Romain Ducré, préparateur mental professionnel, et Mathieu Sobad, le sauriez. Mais on écoute plutôt toutes les questions de nos auditeurs jusqu'à 10h sur la bigorexie, quand le sport devient maladie.
Pour envoyer vos messages vocaux par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma, 076 206 12 12.
Et Johanna, c'est plutôt des messages écrits qu'on
Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup des messages écrits. Alors, merci beaucoup d'aborder ce sujet délicat. Je fais du sport depuis 35 ans, course à pied, trail, vélo, fitness, environ 12 heures par semaine. À l'âge de 40 ans, je me suis imposé un jour de repos. Ça n'a pas été facile. À 50 ans, j'ai dû réduire la quantité car j'étais beaucoup plus fatiguée. Par contre, j'ai toujours la motivation et le plaisir à le faire. Et là, je me suis fait opérer du genou, mais j'ai dû me préparer mentalement à la longue absence de sport. Est-ce que ça pourra être un moyen de déconnecter un petit peu du sport?
Romain Ducret.
C'est très bien que cette personne dit qu'elle a beaucoup de plaisir toujours en faisant ces différentes activités. Et là, on peut déjà relever un point, c'est varier les activités. C'est quelque chose de très, très, très important de ne pas s'enfermer que dans un seul sport. Et là, la personne fait déjà un jour de repos. Et ce qui a été dit, la blessure l'a obligé à faire une plus longue pause. Personnellement, je fais aussi réfléchir les athlètes de pas seulement faire un jour de repos, mais de faire, par exemple, deux fois par année une plus longue pause et d'écouter son corps. Et si là, la personne gère bien, n'a pas trop de frustration, n'a pas de l'anxiété, elle est plutôt sur le bon chemin.
Mathieu Sobad, est-ce qu'une éventuelle blessure, comme ici, ça peut aussi être le moment de réfléchir à sa pratique du sport et éventuellement changer quelque chose?
Alors oui, c'est clairement un moment clé et je suis tout à fait d'accord avec Romain. C'est cette notion-là de des fois s'imposer à faire une pause et voir comment ça se passe, c'est vraiment un bon indicateur. Alors la blessure, ben c'est une pause imposée et c'est souvent d'ailleurs là comme ça. Dans ces moments-là que nous, médecins du sport, on identifie justement cette bigorexie parce qu'on va poser la question comment vous sentez, comment ça va avec cette blessure. Et si la personne nous dit ça va pas du tout, je sais pas ce que je vais faire parce que je peux plus faire mes activités, alors c'est là où on va aller creuser un peu plus loin et c'est là où justement le garde-fou d'avoir des activités diversifiées peut aider en fait, parce que justement peut-être la personne, si elle est blessée à un certain endroit, elle va quand même pouvoir limiter certaines activités, mais peut-être continuer à en faire d'autres. Donc tout ça c'est important. La blessure est un des signes, comment la personne va gérer psychologiquement et aussi physiquement la blessure. Et nous, c'est notre métier aussi d'accompagner les gens sur le plan physique, on leur dit quoi faire, mais aussi sur le plan mental, comment gérer cette blessure.
Romain Ducré, avant de partir sur les nouvelles questions des auditeurs qui continuent à arriver, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur la dopamine et l'endorphine dont on parlait tout à l'heure?
Oui, quelque chose de très important par rapport à la dopamine, les endorphines, mais aussi les neurotransmetteurs qui produisent de la satisfaction et du plaisir, du bien-être. C'est que le risque plutôt inconscient aussi par rapport à tout ça, c'est que ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Ça veut dire qu'on obtient du bien-être psychologique par cette dopamine et les endorphines, mais le risque, c'est qu'on, en fait, on en veut tout, il faut en produire toujours plus. Donc, on va augmenter le.
C'est comme une drogue.
Comme une drogue. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
Johanna, de nouveaux messages mail. Hein.
Un nouveau message mail et qui est vraiment dans la continuité de ce dont on vient de parler avec ces hormones. Un de mes amis était clairement alcoolique. Il est passé de l'alcool à l'activité sportive intense, levé à 5 heures pour aller au fitness, course à pied quotidienne, vélo, ski d'alpinisme. Est-ce que la bigorexie n'est pas une alternative, mais intéressante entre guillemets, à d'autres addictions? On en parlait finalement, ça peut être aussi une addiction qui est remplacée par une autre addiction.
Clairement.
Celle-ci est plus valorisée. C'est une addiction, le sport est une addiction plus valorisée, évidemment, que des substances telles l'alcool, la cigarette ou autre.
Tout à fait. On en revient à des personnalités qui sont plus sensibles à l'addiction que d'autres. Et donc, et typiquement, les sportifs d'élite, c'est le contraire aussi. Ils vont faire beaucoup de sport pendant une certaine période. Et à l'arrêt de leur retraite sportive, ils vont peut-être trouver une autre addiction. Donc, on peut aller dans les deux sens. Donc oui, c'est typiquement retrouvé. Et encore une fois, ben, comment est sa pratique sportive, comment il la gère, comment il la gère psychologiquement par rapport à ça, il faut faire attention parce que ces profils-là, pour nous, c'est, on appelle ça des red flags, des drapeaux rouges à identifier parce que justement, s'il a déjà été addict à une substance ou à une activité, il peut poursuivre vers ce schéma-là. Et l'idée, c'est que on peut l'accompagner parce que, comme vous avez dit, le sport, de toute façon, contrairement à des toxiques ou finalement l'alcool, le tabac, etc., on dit il faut faire zéro. Alors le sport, non, il faut pas faire zéro. Donc il faut quand même faire quelque chose. Donc et c'est bien sûr c'est valorisant pour tout ce qu'on a dit, l'image, la santé, etc. Donc il faut trouver encore une fois le bon rythme, le bon équilibre physique et psychologique.
Romain Ducret, j'ai vu votre index se dresser.
Disons, si je reviens à cette notion de pause, hein, la personne dit qu'elle fait 12 heures de sport par semaine. Là aussi, elle fait des sports avec une grande variété, ce qui est déjà une très bonne chose. Si les gens ont de la peine, vraiment, au début, parce qu'au début, c'est clair que c'est un conflit intérieur, hein, de se forcer à faire des pauses un jour par semaine et deux à trois par année, des plus longues pauses. En psychologie du sport, on peut donner des exercices où la personne elle est à l'arrêt, mais ça produit des endorphines et la dopamine.
Donnez-nous quelques exemples.
Par exemple, il y a des exercices de véritable visualisation associée ou dissociée, mais il y a aussi des exercices très simples d'auto-hypnose qui produisent... Et ça, ça aussi très bien pour gérer une blessure, parce qu'on voit très bien, moi j'ai eu des sportifs qui étaient au bord de la dépression parce qu'ils étaient blessés. Et là, on peut leur donner ces exercices qui produisent ces mêmes substances. Et comme ça leur permet, entre guillemets, de déprogrammer petit à petit le surentraînement.
Mais là, on parle de sportifs professionnels ou c'est monsieur et madame tout le monde?
Non, mais vous voyez, là, cette personne fait quand même 12 heures par semaine. Moi, je connais des sportifs amateurs, surtout dans les sports d'endurance, qui font 20, 25 heures d'entraînement par semaine. Donc, c'est pas seulement... Et les sportifs professionnels... Généralise un peu. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une structure à côté. Mmh. Ils sont pas seuls, voyez. Mmh. Il y a quand même un staff qui est là pour les aider. Et comme je disais aussi tout à l'heure, les préparateurs physiques, enfin, j'espère, sont bien conscients de cette notion de récupération qui fait partie de l'entraînement.
Est-ce que, Mathieu Sobad, les sportifs qui sont pas les plus en danger sont pas les professionnels qui sont entourés, les amateurs, monsieur et madame, tout le monde, qui font du sport en rigolant de temps en temps, mais les amateurs de haut niveau, ceux qui sont un peu dans l'entre-deux?
Alors, oui, c'est sûr, mais en même temps, pour moi, si on est amateur de haut niveau, c'est important de s'entourer, bien s'entourer aussi. Mmh. Parce que dès qu'on parle de haut niveau, on va vers la performance, on va chercher tous les moyens d'augmenter sa performance, mais il faut quand même garder sa santé. Le conseil, c'est de s'entourer au moins, voilà, d'un préparateur physique qui est bien, qui va pouvoir justement identifier et avoir des bons conseils sur le plan physique et santé et psychologique, et sinon avec des professionnels comme on a dit, que ce soit des diététiciens, des psychologues du sport, des préparateurs mentaux, des médecins du sport en majorité.
À 9h43, on reçoit un message de Bernard.
Tous les moyens, vous le disiez, pour augmenter ses performances, Mathieu Sobad. Alors justement, un message écrit, la bigorexie mène-t-elle à la consommation de produits dangereux pour la santé? Est-ce que ça, c'est une...
Alors, il y a quelques études dessus et qui montrent effectivement, alors ça a surtout des études américaines dans les salles de fitness, surtout dans la dysmorphie musculaire, donc on va dire l'addiction au muscle, en tout cas sur le plan esthétique de l'image corporelle, qui est associée clairement, en tout cas il y a une grande tendance à la prise de stéroïdes, anabolisants, en tout cas de dopants, encore une fois pour potentialiser encore plus son image, sa densité musculaire. Mais dans les sports d'endurance, on peut retrouver la même chose aussi. Puisqu'on veut toujours performer, on veut toujours aller au-delà, des fois, on saute des verrous éthiques aussi pour sa santé et pour les règles du sport et aller vers des produits dopants. Ou même, ça peut être simplement des pratiques un peu déviantes alimentaires, de se surcharger en produits. Maintenant, il y a toute la mode des peptides, etc., d'aller trouver...
Protéines.
Les protéines, mais après, bien sûr qu'il faut des protéines. Encore une fois, il y a une règle de base de santé qui est importante quand on veut performer. Il faut avoir des bons apports, des bons carburants, mais il faut pas aller trop loin. Et c'est pour ça qu'il faut être bien éduqué. Et ça dépend avec qui on trouve ces informations-là. Et donc oui, il y a un lien. Et encore une fois, ça fait partie des choses nous à identifier comme professionnels pour voir un peu quel est le degré de pratique.
Il vous reste environ un quart d'heure pour poser toutes vos questions à Mathieu Sobade, qui est médecin du sport au Juve, et à Romain Ducret, qui est préparateur mental professionnel, qui est membre de l'Association suisse de psychologie du sport et de préparation mentale. Toutes vos questions sur quand le sport devient une addiction et qu'on parle à ce moment de bigorexie. 0800 108 208, toutes vos questions au téléphone, ou alors on en parle à rts.ch pour tous vos messages écrits. On vous attend.
Allez, allez, viens, on danse, danse comme un jeu d'antan. Y'a plus la joie d'enfant, c'est pas grave. Laisse-toi balader dans le temps, c'est le panard. Tu sais, mon cœur t'attend tant que t'es pas là. Toi m'as fait lire mon fantôme, toi qui m'as fait fontaine. J'ai le souvenir en photo de ton visage. Dans le vent, j'ai senti ta peau dans mes bras. Vrai ou pas, danse avec moi dans le mirage. Oh, ta voix, t'es dans le ciel, tu voles. Résonne jusqu'en bas. Descends, je suis au paradis. Oh, je te vois. Partout idole, je décolle mes basques du sol, je suis au paradis. Je me dépense et mes pensées se baladent. Mon cœur a jamais le temps de s'arrêter. Et même si t'es pas là, même si t'as pris de l'avance au paradis, sans toi je m'égare. Je garde ton sourire en tête. Et si je pleins par mes gardes, c'est pas la fin du monde. Ta voix d'ange, ça me fait du feu dans le ventre. La tristesse est mortelle, a pas souffert. Ton souffle en descendant a traversé sans doute le sol des dieux, le ciel s'est ouvert. Toi ma voix, mon antenne, je quitterai le monde en terre. Je te rejoindrai chanter nos joies passées. Et avant qu'on m'enterre, je voudrais ma vie entière à t'entendre et me laisser traverser par le haut. Ta voix, t'es dans le ciel, tu voles. Résonne jusqu'en bas. Descends, je suis au paradis, moi. Je te vois. Partout idole, je décolle mes basques du sol, je suis au paradis. Je me dépense et mes pensées se baladent. Mon cœur a jamais le temps de s'arrêter. Et même si t'es pas là, même si t'as pris de l'avance au paradis, sans toi je m'égare. Je garde ton sourire en tête. Et si je perds par mes gardes, c'est pas la fin du monde. Je suis en sortie de sommeil, j'ai des envies de soleil, de ciel, je suis saoulé de mon souterrain. Ta voix dans mes oreilles, sous les rayons dorés, y a un temps de rêve, un temps de rien. Oh, ta voix, t'es dans le ciel, tu voles, résonne jusqu'en bas. Descends, je suis au paradis, moi. Oh, je te vois. Je décolle mes basques du sol, je suis au paradis. Je me dépense et mes pensées se baladent. Mon cœur a jamais le temps de s'arrêter. Et même si t'es pas là, même si t'as pris de l'avance au paradis, sans toi je m'égare. Je garde ton sourire en tête. Et si je pleure par mes gardes, c'est pas la fin du monde.
Antoine, Élie, c'était Paradis.
Le guichet dont on en parle, 0800 108 208.
Nous sommes toujours en compagnie de Romain Ducret, préparateur mental professionnel, et Mathieu Sobat, de médecin du sport au CHUV. Nous parlons de la bigorexie, autrement dit, quand le sport devient une maladie, une addiction, Johanna.
Une question qui vient de nous arriver par mail. Je pense que l'autre problème de la bigorexie, c'est la peur de prendre du poids si on diminue le sport. Et du coup, derrière, il y a un risque anorexique, car moins de dépenses caloriques. Et tout ça est dit avec un point d'interrogation. Mathieu Sobat, est-ce que souvent ces deux addictions sont corrélées ?
Alors, de toute façon, la peur de perdre du poids ou même la peur de détériorer sa santé, c'est une peur qu'on a tous. Encore une fois, c'est plutôt, il y a un côté plutôt sain là-dedans. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait et comment on le vit encore une fois. Il y a une hygiène et des méthodes de base du mode de vie pour justement être en bonne santé. Après, il faut faire attention à le poids et se dire voilà, combien de kilos je dois perdre, etc. Ça, on fait attention à ça parce que c'est.
Est-ce que si on est bigorexique, on a plus de malchance de tomber dans une forme d'anorexie ? Enfin, je comprends un peu la question comme ça, mais.
Oui, mais de toute façon, les troubles du comportement alimentaire font partie des choses à identifier dans ce type de problème. Et oui, on peut tomber dessus. Ça fait partie des méthodes de contrôle justement de ces entraînements, de sa pratique. Donc après, il y a tellement de façons de le faire que là, après, il faut creuser. Moi, j'ai vu plein de types différents justement d'approches justement de cette que ce soit des approches très restrictives ou justement on a dit des approches plutôt déviantes, dopantes avec des hyperprotéinées, etc., etc. Donc il faut trouver un peu comment faire, mais la peur, elle est, je comprends, elle est légitime, mais il faut encore une fois, faut en parler si vraiment on se sent en perte de contrôle par rapport justement à cette pratique, ou en tout cas cette hygiène alimentaire. De se dire je mange toujours les mêmes choses ou je me restreins toujours et j'ai toujours faim et ça va pas. Donc il faut en parler.
À 9h51, nous recevons un téléphone au 0800 108 208. Il nous vient de la Neuville. Bonjour Delphine.
Bonjour. Alors je vous fais mon petit témoignage volontiers. C'est marrant parce que pendant que je parle avec votre collaboratrice, j'ai juste réentendu l'antenne qui parlait d'anorexie. Mmh. Ce que je n'ai pas spécifié dans mes explications, effectivement, j'ai été touchée par l'anorexie, ce qui a sous-entendu énormément de dépenses physiques, qui sont devenues bien sûr qui étaient devenues indispensables jour après jour. Et puis, au vu de ces années de traitement physique intense, et d'anorexie, mon corps n'a pas résisté et j'ai dû m'arrêter brusquement pour beaucoup de problèmes au niveau de l'ossature surtout, mais au niveau des muscles aussi, au niveau des tendons. Et puis, j'ai dû arrêter. Donc, effectivement, après des années de sport, ça m'a été extrêmement difficile et coûteux. Et puis, j'avais trouvé une petite stratégie qui n'est pas forcément des plus agréables, mais qui était assez naturelle pour que ma nervosité soit calmée pour que je retrouve pied. Je prenais des douches froides les journées. Chaque fois, je sentais cette envie de monter, de me dépenser énormément. Il fallait bien que je trouve un moyen pour la faire descendre un peu, pour pas trop souffrir. Et puis après, cela marchait indiscutablement, mais j'ai quand même dû évidemment faire une bonne dizaine d'années avec des Valium. Bien entouré par mon psychiatre. Et puis maintenant, tout se calme. Je reprends du sport bien plus tranquillement, mais au quotidien. Et puis mon corps, il s'en sent beaucoup mieux, évidemment. Et ma santé aussi.
Merci beaucoup Delphine pour ces mots. J'ai juste une petite question encore à vous poser. Vous faites un lien direct entre la pratique excessive du sport et l'anorexie et votre parcours médical. C'est vraiment venu du sport ?
Pas l'anorexie, non. Non. J'ai toujours été sportive, depuis mon tout jeune âge, mais l'anorexie n'est pas liée au sport que j'ai fait. Non, ça a été un déclenchement d'autre chose, par une autre étape dans ma vie, mais les deux cumulés, forcément, ont mené à une catastrophe pour mon corps.
Je comprends. Merci beaucoup Delphine d'avoir témoigné en direct sur RTS Première. Je me tourne vers vous, Romain Ducret, préparateur mental professionnel, et Mathieu Saubad, médecin du sport. Qu'est-ce qu'on peut dire à Delphine aujourd'hui ?
C'est déjà, je la félicite qu'elle a réussi à surmonter ça et qu'il y a une prise de conscience et qu'elle reprend son activité physique d'une façon plus tranquille. Et je l'encourage toujours à écouter ses émotions, son état de santé. Je la félicite.
Mathieu Saubad.
Merci pour le témoignage, parce que c'est vraiment très, très intéressant de montrer aussi qu'on peut s'en sortir, en fait, et que, voilà, c'est un exemple plutôt positif, malgré, j'imagine, beaucoup de souffrance. C'est vrai que, nous, ce qu'on veut essayer aussi, même par ce témoignage-là aussi, par cette transmission aujourd'hui, c'est d'essayer d'anticiper. C'est-à-dire que si elle avait pu anticiper, justement, cette fuite en avant, on va dire, sportive et anorexique, peut-être que ça aurait été bien de ne pas attendre une blessure ou plusieurs problèmes de santé pour devoir arrêter et devoir tout réadapter. Et c'est des fois plus facile de pas attendre le tsunami et de plutôt d'y aller petit à petit, de réadapter à la fois. En fait, comme vous dites, dans votre question, c'est pas le sport qui a provoqué ça, c'est ça. Son histoire de vie et ses moyens qu'elle a trouvé, c'était l'anorexie, c'est le sport annexé. Et donc c'est là qu'il faut chercher de manière globale un peu comment trouver sa voie et son équilibre de manière adaptée.
Johanna.
Est-ce que finalement c'est possible de refaire du sport normalement après une bigorexie sans accompagnement? Je fais le parallèle justement avec l'anorexie. Est-ce qu'on peut remanger après être sorti d'une phase anorexique sans accompagnement?
Alors, c'est des pathologies. Donc, pour moi, ces pathologies, il faut avoir un bon diagnostic et un accompagnement thérapeutique. Donc, je dirais plutôt non. Les risques sont grands, justement, de pas trouver. Parce que faire attention avec les réseaux sociaux, avec même Dr ChatGPT, Dr Google, on va trouver plein de choses. Mais pour le faire soi-même, c'est vraiment pas facile. Parce que là, on parle de changement au quotidien, sur le long terme. C'est vraiment pas facile, donc on conseille vraiment d'abord d'en parler et après d'être suivi.
Très concrètement, à qui on s'adresse en première instance, si après l'écoute peut-être de ce guichet, on se dit « Ouh là là, je commence à être dans cette problématique ».
Et pour moi, c'est son médecin traitant. C'est lui qui vous connaît et avec qui on peut, notre partenaire vraiment de première ligne. Et lui, justement, s'il est à l'aise avec ça, il a son réseau, ben il va pouvoir prendre en charge, d'abord identifier et prendre en charge. Et sinon, ben il va adresser à des professionnels. Nous médecins du sport et de l'exercice, on est formés pour ça. Donc, on peut être clairement un complément d'expertise. Et après, comme on a dit, tous les professionnels autour. Pour selon encore une fois l'identification initiale un peu quel est le problème. Et comme je disais, c'est souvent il y a souvent un terrain beaucoup plus large que simplement le sport ou la blessure liée à son sport annexé, comme on disait, au niveau alimentaire, au niveau psychologique ou autre. Donc il faut creuser ça, et je pense, parce que si on utilise que le levier sport en se disant ok, bon, il faut, si je mets juste une journée de récup, tout va s'améliorer, c'est pas comme ça que ça va aller. Donc c'est très large.
Cette émission arrive à son terme. Peut-être juste en quelques secondes, chacun d'entre vous, Romain Ducret, Mathieu Sobat, quelques conseils pratiques aux sportifs pour que ce qui est une bonne pratique ne devienne pas mauvaise pour la santé, ne devienne pas une maladie. Romain Ducret, peut-être, pour commencer.
Bon, l'idéal serait de faire un diagnostic médical et psychologique, parce qu'on a tous nos points forts et nos points limitants. Mais après, c'est surtout apprendre à s'écouter, s'autoriser à faire minimum un jour par semaine une pause, à faire des pauses un peu plus fréquentes, et surtout s'examiner comment on vit ces situations-là. Et si on vit de l'anxiété, de la frustration et ou des émotions négatives, c'est là qu'il faudrait consulter des spécialistes.
Mathieu Sobat, en 15 secondes pour terminer cette émission.
Ouais, tout à fait d'accord, mais je resterai sur ce côté. Se poser la question, est-ce que je prends toujours du plaisir? Est-ce que j'ai des souffrances? Et pouvoir identifier. Rien que déjà ça, ça permet d'en parler. Et c'est déjà le premier pas pour aller mieux.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous en studio pour répondre aux auditrices et aux auditeurs sur la bigorexie quand le sport devient une addiction. Merci à vous, Romain Ducret. On rappelle que vous êtes préparateur mental professionnel, membre de l'Association suisse de psychologie du sport et de préparation mentale. Et merci à vous, Mathieu Sobat, médecin du sport aux Juves. Bonne journée à tous les deux.
Bonne journée à vous, merci.
Bonne journée, merci.